les problèmes ou les joies de la diversité au quotidien des professeurs, des journalistes, c'est-à-dire donner la parole à une pluralité de personnes qui vivent Genève et qui contribuent à sa diversité, justement en vue de proposer, enfin de faire sortir quelque chose qui soit d'une commune approche, en fait, si je pourrais dire ainsi. C'est ça l'espérance, j'entends, c'est justement mettre ensemble les gens.
Parce qu'il y a aussi l'idée que les gens suivent, donc participent, les gens de l'extérieur,
les habitants, bien sûr, c'est bien sûr, évidemment, bien sûr, le maximum de personnes, et chacun parle de son vécu, qu'il soit professionnel, qu'il soit intellectuel, qu'il soit quotidien, qu'il soit culturel, artistique. En fait, c'est ça, c'est l'importance de la cité, enfin l'idée de construire une cité ensemble, dans sa pluralité.
Alors juste avant qu'on aborde très concrètement ce qui va se passer dans ces ateliers, Christine, j'aimerais encore te demander, toi qui as aussi participé à la concrétisation de certains de ces événements, tu as ni plus ni moins proposé la construction d'une nouvelle annexe du musée d'ethnographie sur la plaine de Plainpalais. Est-ce que les gens ont répondu à ces entreprises parfois gigantesques, comme celle de faire construire, comment ça s'appelait déjà
Le pavillon des masques, le pavillon rouge. Oui, bien sûr, les gens ont répondu. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu une sorte de mouvement, parce qu'une histoire comme l'histoire du pavillon des masques était impensable, était impossible, était inimaginable sans ce mouvement-là. C'est-à-dire que c'est une sorte de déclic qu'on ne peut pas reproduire. C'est comme les coups de foudre, ça vient comme ça. On peut passer. C'est incontrôlable. Alors l'histoire du pavillon des masques, c'était la même chose. Tout à coup, j'ai senti comme un mouvement vers une grande fête et j'ai eu vraiment envie de participer. Et de participer, alors je me suis dit, mais il faut que ce musée où je me sens tellement investie participe, parce qu'on ne peut pas rater une occasion comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu cette idée un peu folle, construire une maison. Alors construire ce pavillon des masques, c'était donner une sorte de passeport pour un lieu, quand même, comme tu l'as décrit tout à l'heure, le musée, mon Dieu, c'est quand même encore une image très poussiéreuse, très fermée, très statique. Et ce pavillon des masques, cette idée d'aller au-devant du public dans un lieu peu habituel, de montrer une collection, une vraie collection de musées, de pouvoir prévoir un atelier, donc une ouverture vers les enfants, de pouvoir faire venir un peuple, en fait, voir une collection. C'était leur suggérer, au fond, que le chemin vers un lieu de culture, ou de culture au pluriel, comme un musée d'ethnographie, au fond, c'est un chemin pas si compliqué, et qu'il y a, qu'on peut y accéder. Alors, quelle était ta question exactement ?
Ce qui m'intéressait surtout, déjà qu'on mesure, c'est à quel point les gens avaient déjà répondu. C'est ce que disait Maïté, on espère que les gens vont participer à ces ateliers, mais ils avaient déjà répondu, pas seulement à la fête, parce que c'est vrai que la fête, c'est... Oh, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est vrai que les gens sont tellement assoiffés de moments de fête, de danse, de musique, qu'enfin, quand ça se passe, les gens se ruent. Ça, je crois que... Et c'était magnifique dans ce sens-là, de voir à quel point les gens ont besoin de ça et ont répondu à cette offre. Mais là, c'était quand même une démarche plus particulière. On attendait des enfants qu'ils viennent fabriquer des masques avec vous. Et vous avez eu l'espoir qu'ils le font. Ils ont quelque part répondu, c'est ça ?
Ils n'ont pas quelque part répondu. Ça a été un succès total. Ça, je crois qu'on peut le dire. Mais ce qui est très important, c'était qu'au fond, on a senti que tous ceux qui avaient participé avaient envie que quelque chose continue. Et ça m'a semblé être un très très bon signe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas simplement une autosatisfaction. On était tous très contents, mais on avait vraiment tous envie de continuer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment continuer quelque chose. Alors, ce forum, ça c'est peut-être... est-ce que ça va être que du blablabla ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui pourra se construire ? Je dirais, peu importe. Ce qui est très important, c'est qu'on continue à se rencontrer, à faire part du travail et des projets des uns et des autres, de façon à ce qu'on ne soit pas en concurrence, mais qu'on soit vraiment dans une sorte, tous ensemble, dans un mouvement qui peut être beaucoup plus large.
Cela dit, Christine, que je précise bien ma pensée, je pense de loin pas que le musée d'ethnographie est un musée poussiéreux. Je crois qu'il assume déjà une tâche essentielle de rencontre depuis un bon moment déjà dans la ville de Genève. Je crois qu'il y a déjà eu beaucoup d'occasions d'échange par l'intermédiaire du musée d'ethnographie. Si seulement tous les musées s'y prenaient de la même façon, je crois que ça bougerait sacrément vite. Mais c'est vrai que souvent, c'est souvent l'image qu'ont les gens du musée qu'elle est immobile. Je crois, heureusement, à Genève, on a eu l'occasion effectivement de découvrir que ça n'était pas seulement un musée pouvait aussi bouger. Alors, ces ateliers, très concrètement, effectivement, après des moments de réflexion, après des moments de fête, après des moments où on a simplement regardé des expos, des spectacles, des films, cette fois-ci, vous qui avez participé à l'organisation de ce dernier forum de la diversité pour clore cette année, vous espérez que les gens y viennent, non pas comme simples spectateurs, mais comme membres actifs. C'est ça, n'est-ce pas, Sarah? Entre autres, tu vois, qui était extrêmement active dans l'organisation de ces ateliers et qui a justement eu l'idée de la structure atelier. C'est-à-dire, on ne veut pas de nouveau que les gens consomment, on veut qu'ils participent. Il y aura des gens qui amènent des expériences, mais on veut surtout qu'en face, les gens parlent et portent des projets. C'est ça que tu attends, toi, concrètement, de ces ateliers?
Ah oui, tout à fait. J'attends vraiment que le forum soit un lieu. D'abord, ce qui est nécessaire, et c'est peut-être très, très, très factuel ce que je veux dire, mais quand on est à Genève et qu'on mène une activité ou un projet, des moments comme ceux-là qui nous sont donnés de rencontrer des personnalités de différents milieux, les médias, des milieux concernés ou spécialisés par les concernés par les thèmes qui seront traités, c'est déjà essentiel dans la vie d'une association ou dans la vie d'un groupe d'individus qui veut mener à bien un projet ou qui a envie de s'exprimer quelque part. Donc c'est déjà vraiment quelque chose d'important. Maintenant, les ateliers, j'ai pas envie de dire que j'attends tout, hein. Alors ça, c'est vraiment deux soirées, un samedi matin, où il y aura la possibilité pour des personnes de faire le point avec des personnes d'horizons culturels divers, d'horizons professionnels divers. Maintenant, effectivement, ce que nous on fait à travers des Civic Café, on espère que ça sera fait également dans les ateliers, mais ça sera fait, c'est d'accorder quand même une partie des échanges sur des propositions extrêmement concrètes qui seront elles-mêmes sujets à débat. Et qu'ensuite de quoi il y ait cette charte qui va être dégagée, qui va être une espèce de synthèse de ce qui va être proposé, de ce qui va être dit, les points forts à mettre en avant, et que ça serve de repère par rapport à une orientation politique, une orientation décisionnaire, soit universitaire, soit politique, soit d'autres milieux qui auront la possibilité d'agir dans ce sens-là. Moi, voilà, je vois ça comme ça. Maintenant, nous, pour ce qui nous concerne, on commence en décembre toute une série de réunions qui auront lieu une fois par mois.
Donc, Mondial Contact.
Mondial Contact. Parce que ce qui est quand même très important, je crois qu'il faut le dire, la consultation avec les pouvoirs publics est essentielle. Mais je crois à mes yeux qu'il faut que l'identité associative et culturelle soit totalement préservée, notamment au niveau de son indépendance, d'action, de conception, etc. Donc, après le forum est un point de rencontre, mais après, les réunions qui auront lieu entre différentes communautés déboucheront sur un rapport qui sera envoyé régulièrement au Grand Conseil, au Conseil municipal, au Conseil administratif, à des sociétés, pour qu'on aille plus concrètement vers des choses qui s'organisent et qui s'aménagent. Et nous ferons le suivi avec des autres associations, des suivis réguliers tous les 6 mois. Donc on en fera déjà 2, on en a 6. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois le forum. Maintenant, moi, ce que je voulais un peu dire au niveau de la fête de la diversité. Alors, l'aspect festif, il est essentiel. Pour le moral collectif, je crois que c'est vraiment important qu'il y ait des lieux comme ça, de convergence publique, où les gens se retrouvent et puis finalement vivent quelque chose en commun, une émotion. Bon. Alors, on a vu que c'était le cas. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était la fête, on a dansé, on a bu ensemble. C'était vraiment très bien. Mais c'est absolument pas le tout. C'est une étape, c'est un point de départ, parce qu'il s'agit là, je crois vraiment, avec une telle expérience qui a été initiée par le département des affaires culturelles et le musée d'ethnographie, c'était absolument essentiel, mais on ne peut pas s'arrêter que là. Donc, s'il y a, si on apporte également ce complément qui est déjà un petit peu structuré au travers des ateliers du Forum de la diversité, on apporte déjà des éléments de réponse. Et maintenant, il faut qu'il y ait vraiment un suivi, qu'il soit ponctualisé, qu'il soit vraiment structurel. Et c'est là où je vois l'essentiel de la fête, c'est qu'elle débouche toujours sur des choses qui sont ensuite respectées dans leur réalisation par des choses concrètes.
Alors, je ne veux pas être un rabat-joie, mais de toute façon, je pense que vous posez entre toutes quand même, bien sûr, le fait qu'il y a des choses qui vont bien et qui sont positives, des choses qui sont négatives. Mais ce qui me frappe quand même dans la situation et le bilan un petit peu de tout ce qui se fait, parce qu'on entend beaucoup parler de pas, d'expériences, d'actions que font des gens à Genève, et c'est incroyable. Il y a effectivement beaucoup de choses qui se font dans le sens d'une meilleure compréhension, d'un meilleur respect, d'un meilleur d'intégrer un meilleur apport de chaque culture, et pas seulement de la cohabitation, pas seulement d'accueillir mais de vivre avec, pas seulement d'assimiler mais de s'enrichir. On entend que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les centres de loisirs, que ce soit sur les lieux de travail, etc. On entend beaucoup d'expériences. Mais ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a l'impression que toutes ces richesses-là, quelque part, ne sont pas, pour employer un mot d'argent, pas capitalisées. Si demain ces gens s'arrêtaient de faire, on a la sensation qu'il n'y existerait plus rien.
Alors voilà, alors là je vais intervenir une dernière fois, après je laisserai la parole. Les actions qui vont être entreprises, sont essentielles parce qu'effectivement, il y a des activités associatives qui sont menées à bout de bras par des personnes qui aujourd'hui, dans un cadre économique beaucoup plus fragilisé, n'ont plus le temps qu'elles avaient avant pour mener à bien ces activités, d'organiser des manifestations, contribuer à cette image pluriculturelle de Genève depuis la base. Donc, hein. Et c'est le moment absolument maintenant primordial pour pouvoir se pencher sur les questions, mais qu'est-ce que c'est concrètement que de soutenir une activité interculturelle ou émanant des associations pluriculturelles, c'est également contribuer à la réflexion de se dire que ces activités sont menées à bien par des initiatives purement individuelles, avec des moyens individuels et des moyens qui sont absolument minimes. Donc ça sera aussi le lieu, les lieux dont j'ai parlé, de pouvoir mettre en avant des propositions qui fassent que ça facilite, ou que ça fasse en tout cas, donne une garantie de survie notamment de ces
Je prends un exemple tout simple qui va tout à fait dans le sens que tu dis, Sarah. Je viens de recevoir aujourd'hui un papier du centre de contact suisse immigrée que tout le monde connaît bien ici à Genève, qui s'est préoccupé un peu des préoccupations de rencontre entre les communautés immigrées et les Genevois, et ce centre qui fait un travail incroyable depuis des années va se voir diminuer quasi de 2/3 sa subvention pour son travail, et donc est menacée de disparition. Or, on sait que cette association mène un travail incroyable, et aujourd'hui, l'État décide de ne plus donner sa subvention telle qu'elle l'a donnée précédemment, coupant déjà une force qui était petite, parce qu'il y a déjà dans le centre de contact suisse immigré, comme dans beaucoup d'associations, une majorité de gens qui travaillent bénévolement. Mais là, même le petit peu qu'il y avait, qui peut travailler en permanence, c'est même remis en cause. Donc, on voit que derrière toutes ces actions magnifiques qui sont entreprises, il manque la reconnaissance politique de la chose. Alors, comment dans ce sens penser que ce forum va peut-être contraindre les autorités à donner une crédibilité, une force, et à reconnaître ces propositions qui vont être faites lors de ces ateliers-là? Je ne sais pas, bon, Kinja, tu as accepté de participer à ces ateliers. Est-ce que tu y crois, toi, à ça? Et vous toutes qui, d'une façon ou d'une autre, participez à ce qui se passe à Genève, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les autorités vont réellement prendre au sérieux tout ça et vont pas seulement dire, encourager, oui, c'est magnifique, mais quand Monsieur Vessat dit « je propose la démocratie dans les quartiers », concrètement, ça doit vouloir signifier quelque chose. On doit mettre au point une structure qui donne concrètement la parole aux gens, par exemple, qui ne l'ont pas. Est-ce que ça a des chances d'exister? Comment vous vous sentez par rapport à cette réalité qui deviendra concrète ou pas au lendemain de ce forum?
On s'est dit, il faut quand même essayer, parce que on sait très bien que ça ne sera pas facile. Connaissant un peu les Suisses, en quelque sorte les Genevois, il faut vraiment les forcer, il faut essayer vraiment de prouver comme quoi qu'il y aura quelque chose de positif qui va sortir là-dedans. Je ne peux pas dire que j'y crois à 100%, mais je me dis, il faut tenter. Qui ne tente rien à rien. Alors voilà. Parce que bon, s'il faut voir dans d'autres pays, par exemple, ou bien la France, l'Angleterre, la plupart des associations, ils obtiennent quand même quelque chose de l'État. Ne fût-ce qu'une petite contribution pour que les associations consolident leurs activités. Mais en Suisse, c'est beau. Hein, peut-être on me dira que ce n'est pas dans leur mentalité, mais il faut essayer, faire un pas. Et puis on verra. C'est tout ce que je peux dire.
Mercedes.
Je crois qu'on se trouve soi-même en comparant sa propre civilisation avec celle des autres. Je crois particulièrement que le forum, c'est un espace qui va donner la parole à différentes personnalités, pas seulement politiques ou pas seulement des gens qui ont, entre guillemets, le pouvoir. Je pense que l'idée du forum, c'est de justement échanger de différents avis. C'est pour ça aussi que si nous regardons le programme, il y a des gens de différentes situations qui vont participer. Et dans mon cas, je crois que à travers ma vidéo, j'ai voulu exprimer la situation des Péruviens en Suisse, à Genève, par exemple. J'ai eu l'appui d'une ville comme Genève, ils m'ont appuyé à faire ce projet. Dans un moment, je me disais, je crois que ça sera difficile. Moi, je suis étranger, j'ai présenté un projet et je me disais, je pense que ça va être presque impossible. Mais le cas a été, différent. J'ai pu m'exprimer, non, à travers ma vidéo. Et dans les forums, les gens, ils vont s'exprimer chacun avec son langage. Non, je crois que c'est un moment de réflexion. Non.
Donc d'entretenir ce type de débat, de discussion, ça peut faire avancer petit à petit les choses de cette
façon-là. Bien sûr, et de dialoguer entre le Nord et le Sud, non, que nous sommes toujours dans ces cas.
Sarah ?
Je crois qu'en dehors des moyens, ou non accordés ou pas, financiers, c'est la reconnaissance d'interlocuteurs. C'est vraiment que les pouvoirs publics ou les personnalités politiques puissent se dire que régulièrement, que l'on puisse... C'est la politique consultative qui est essentielle. On le voit dans les civic cafés, régulièrement, ce qui manque, c'est que les personnes qui sont au cœur même de la problématique ne soient pas toujours les personnes que l'on contacte pour essayer de développer une politique ou une réflexion de base collective. Hein. Donc là, je parle des pouvoirs publics. Donc, nous, ce serait plutôt d'abord de commencer par ça, de dire, voilà, il y a des choses qui vont se faire, qui vont s'aménager, qui vont se discuter, s'imaginer, parce que je crois qu'on peut aussi impulser, créer, puis tenter ensemble de proposer, et pas uniquement de se dire, on a des besoins très précis, etc. Et c'est la reconnaissance, précisément, de ce type d'interlocuteurs et de ce qu'ils auraient à proposer, de ce qui ressortirait donc de leurs activités, de leur discussion.
Christine, il y a un espoir très concret aussi qui va être discuté lors de ce forum. C'est l'espoir de voir enfin se concrétiser l'idée d'un nouveau musée d'ethnographie. Et ce qui semble intéressant dans l'idée de la conception de ce nouveau musée d'ethnographie, c'est qu'on annonce qu'on veut le discuter avec les citoyens, les résidents de la ville de Genève. On ne veut pas seulement construire un nouveau bâtiment, puis après tout le monde dira « mais ça ne va pas parce que ça ne marche pas comme ci, ça ne va pas comme ça ». On aimerait pour une fois le concevoir avec les gens qui vont l'utiliser, qui vont le fréquenter. Est-ce que ça, c'est une attente très forte, par exemple, d'une personne comme toi? Est-ce que tu places dans ce nouveau musée l'idée, l'espoir que, justement, ça peut être un prolongement d'un forum comme celui qui va avoir lieu ces prochains jours?
Bien sûr. Jusqu'à très récemment, rien que les deux mots « nouveau musée d'ethnographie » nous faisaient éclater de rire. Parce qu'il n'y avait vraiment pas d'avenir, on n'en parlait pas, pour nous ça n'avait même plus un contenu. Mais il se trouve qu'il y a eu convergence de deux événements cette année, Diversité 95, la préparation du forum, et l'annonce tout à fait officielle de la préparation du lancement d'un concours d'architectes au niveau international pour ce nouveau musée. Alors, c'est vrai que quand on parlait de ces différents ateliers, il y a un atelier culture-culture, avec, et puis on disait les musées, les théâtres. Et au fond, musée, on a dit non, on ne va pas, au fond, comme ça, amener la discussion sur... on ne veut pas être... non, c'est trop important. Profitons de cette plateforme qui est offerte, donc publique. Est-ce qu'on ose mettre le musée d'ethnographie à la question ? Public. Et on n'a pas hésité longtemps, on a dit oui, essayons de faire ça. On a assez peur de ces deux ateliers parce qu'au fond, c'est vrai qu'on a très envie de cette consultation publique, on a très envie d'entendre des choses, on a aussi très peur de ce qu'on peut entendre, parce qu'au fond, un musée, c'est aussi quelque chose d'assez spécialisé. Jusqu'à présent, on maîtrise le discours sur le musée, puisque c'est nous qui le faisons. Mais c'est vrai qu'on est plein de, disons, d'ouverture et d'étonnement. On ne sait pas ce qui va se passer dans ces ateliers, mais je crois que c'est essentiel de passer par cette voie de consultation. Moi, je pense qu'elle ne suffira pas. C'est qu'un premier moment, c'est qu'une prise de température, qu'un repérage de groupes, de gens, d'attentes, d'associations. Parce qu'on peut bien parler des publics, de leurs attentes, mais c'est vraiment une nébuleuse qu'on n'a pas beaucoup sondée. Et là, c'est un petit peu commencer un grand travail. Voilà. Je crois que maintenant, on est tous à l'intérieur du musée, disons tous les gens qui se motivent par rapport à ce nouveau musée, en train de nous dire, bon, on est vraiment au début de quelque chose, mais maintenant, il faut aller très vite. Et voilà, donc, je ne crois pas qu'on va concrétiser le nouveau musée pendant ces deux ateliers, mais de l'amener sur la place publique, c'est un passage indispensable qui nous fait très plaisir et on ne sait pas ce qui va en sortir pour l'instant.
Je pense qu'en tout cas, ce qui ressort de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il est important que les gens dans la cité se donnent la peine de prendre la parole. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout sûr qu'on arrivera à faire le poids et d'obliger les pouvoirs publics et autres instances à répondre forcément à ce qu'on demande. Mais en tout cas, il est important qu'on prenne la parole, que les gens qui sont actifs dans cette cité se posent des questions, en posent à d'autres, fassent part des demandes qu'ils ont à faire. Et c'est peut-être ça le mot de la fin. C'est de dire venez nombreux pour vous faire entendre, parce que c'est vrai que de rester chez vous, ça ne change pas le problème. Il y a des difficultés, c'est sûr, on voit qu'on progresse, on recule, on avance, on revient, mais qu'en tout cas, c'est vrai que ça semble important en tout cas de continuer à se faire entendre. Bon, il y a des tas d'associations qui bougent fort sur Genève. Ça, c'est peut-être aussi une spécificité de la ville de Genève, c'est que ça bouge beaucoup dans le monde associatif et que parfois on prend quelques claques, parfois on se fait entendre, mais je crois que ça vaut la peine de continuer. Et dans ce sens-là, on ne peut qu'encourager tout le monde à venir participer concrètement à ces ateliers, faire entendre leur voix. Et si ça parle haut et fort, et puis ça sera peut-être un petit peu plus haut d'ici quelques temps et peut-être on nous entendra. Alors, est-ce qu'on peut peut-être rapidement redire les thèmes des ateliers ? Pour attirer les gens à venir juste là et dire donc que ces ateliers auront lieu les jeudis et vendredis soirs prochains, donc le 30 novembre et 1er décembre, qu'ils ont lieu chaque fois de 20h30 à 22h30 et qu'il y aura un bilan de tout ce qui s'est dit le samedi matin, tout ça au musée d'histoire naturelle. Alors, des questions importantes pour cerner. Maïté, c'est toi qui nous rappelles les différents sujets des...
Oui, simplement aussi dire que ces ateliers, comme ils se déroulent sur deux jours, deux soirs, jeudi et vendredi, c'est l'idée aussi d'une continuité. On ne va pas rappeler ou répéter ce qui leur a été dit la veille, le lendemain. Donc, c'est vraiment en vue de pouvoir digérer un peu le soir sur ce qui aurait été dit pour permettre un petit peu quand même une progression. Alors, le thème des ateliers, je vais simplement les reciter comme ça rapidement. Donc, un atelier dont Christine a parlé sur le nouveau musée d'ethnographie.
Qui, lui, précisons-le, aura lieu à 18h.
À 18h, c'est-à-dire que les personnes jeudi. Pourront assister mm-hmm. et à cet atelier et à un des cinq autres.
Mm-hmm.
18h30. Donc, ensuite, les cinq ateliers qui ont lieu à 8h15. L'atelier numéro 2 concerne la Genève plurielle. Et. Essayer de prendre le pouls un peu, enfin d'interroger les participations et les expériences d'exclusion. L'atelier suivant concerne la biodiversité, le cadre de vie, le développement, comment aménager l'espace public, le rendre plus chaleureux et puis comment penser l'économie de façon plus sociale et plus protégeant peut-être un peu mieux. Oui. Et il y aura aussi un atelier sur les médias et la diversité, avec l'idée, est-ce qu'il existe une démocratie ? Enfin, est-ce que Genève peut se poser comme capitale de la démocratie, de l'information et de la communication ?
Si je peux me permettre, j'ai trouvé que les invités n'étaient pas très diverses. Entre autres, que Radio Zone, qui donne la parole à ces diverses communautés depuis longtemps, n'a même pas été conviée.
Oui, je sais bien, le choix des intervenants est toujours délicat aussi. Et puis, les deux derniers ateliers, donc l'un concerne la problématique de l'éducation et de la pluriculturalité. Et le dernier, donc c'est tout, c'est l'accès finalement, comment tracer des liens entre la culture avec un grand C au niveau, enfin l'art, le spectacle, le théâtre, etc., et les communautés culturelles qui aussi font de la culture avec un grand C, mais souvent il n'y a pas de lien entre la culture institutionnelle et puis les communautés.
Non, je rajouterais juste en deux mots que les thèmes qui ont été proposés, notamment éducation, jeunesse et pluriculturalité, culture et culture, médias et diversité et une cité plurielle, participation et exclusion, sont des thèmes qui ressortent de discussions très approfondies avec les associations. Donc on pourrait dire que ce sont directement des problématiques associatives, notamment, qu'on retrouve dans le cadre de la vie associative, qui ressortent là sur la place publique.
Tout à fait. Et nous rappellerons, Mercedes, que si on veut découvrir encore ton film, c'est-à-dire Visa pour un rêve, on peut le voir le...
Ah, le 9 décembre à 18h15 au Grootli, au Fonction Cinéma. Tout le monde est invité.
Voilà. Alors, un dernier rendez-vous, c'est le bilan du samedi matin à 9h, toujours au Musée d'Histoire Naturelle, jusqu'à fin de la synthèse, je vois quelque chose comme 12h30, avec un repas final de rencontre pour ceux qui ont envie. Voilà, l'occasion donc de participer très concrètement, de faire entendre votre voix lors de cet ultime événement de Diversité 95. Et on espère, chères auditrices, que tout comme les 6 femmes qui étaient présentes aujourd'hui, vous serez aussi actives qu'elles. Je vous remercie de vous être déplacées jusqu'ici et de nous avoir fait part de votre action pour la diversité à Genève. Merci à toutes les 6. Je vous rappelle qu'il y avait Christine Détra du Musée d'ethnographie, Sarah Kalfala, présidente de l'association Mondial Contact, Maïté Michon, qui a été vraiment le bras droit du coordinateur de Diversité 95. Et il y avait aussi Kinja Mingabo, qui est de l'association des femmes d'origine africaine qui vivent en Suisse, Mercedes Sanchez Allegri, qui a réalisé ce film que vous pourrez découvrir qui s'appelle Visa pour un rêve. Voilà, aujourd'hui, Remue-Ménage, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour partir avec quelques députés et autres genevois au Guatemala qui ont suivi pour nous les élections telles qu'elles se passaient dans ce pays qui jusque-là n'était pas particulièrement considéré comme un pays démocratique. Voilà. Espalhando a luz do sol, espelhando.
Diana.